بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre après ce mois béni les programmes concernant la mort et l'étude donc du livre Sharh al-Sudur fi Ahwal al-Mawta wal-Qubur, ouvrage écrit par Jalaluddin al-Suyuti, traduit par La mort et la vie tombale. L'objectif donc de l'étude de ce mawdou', de ce sujet, est de comprendre et d'identifier clairement l'objectif de la mort, de dédramatiser la notion de maut, de mort, et de s'y préparer, et de réaliser que la mort n'est pas synonyme de la fin de tous les plaisirs et de la vie et du bonheur, et ainsi de suite. Bilax, bien au contraire, la mort, c'est le passage d'une vie de bonheur limité, de plaisir limité et imparfait, et un passage vers un monde où Allah Azza wa Jal nous acceptera, si on a bien vécu ces ayam ou dunya, ces jours de ce dunya, pour nous accorder ce qu'il accorde à ceux qu'il aime, c'est-à-dire son jannah. Donc réaliser que lorsque nous perdons un proche, ce n'est qu'un passage d'une étape à l'autre et qu'on le retrouvera de toute façon à deux étapes de l'au-delà. La première étape, c'est une étape où les retrouvailles n'ont aucun sens, aucun intérêt, c'est l'étape de mahshar, de la résurrection, où il se peut qu'une personne soit ressuscitée et donc à côté de certains proches. Mais c'est une étape qui n'apporte rien, qui ne fait naître aucun sentiment par rapport aux retrouvailles, parce que ce sont des moments terribles. Mais par contre, les retrouvailles, les vraies retrouvailles et les retrouvailles éternelles qui ouvrent une porte de bonheur, qu'Allah seul le sait, ce sont les retrouvailles dans le Jannah. D'où le verset « Jannatu adni yadkhulunaha » وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ. Le paradis de lequel les gens font retrouver leurs proches, leurs parents, leurs enfants, les ascendants, les descendants, époux et épouses. Ceux qui, bien sûr, ont réussi le passage de ce monde vers le-delà ont été agréés par Allah Azza wa Jalla. Voilà donc les différents objectifs à travers l'étude de ce livre de As-Suyuti Rahimahullah. Et l'étude de ce livre s'inscrit dans un programme de Aqidah qu'on a commencé depuis quelques années, où on a vu principalement Al-Iman Bil-Yawm Al-Akhir, la foi en l'au-delà. Et dans l'étude de la foi en l'au-delà, il y avait cette étape, parce qu'on s'était plutôt focalisé sur la résurrection et les étapes de l'au-delà, le paradis, l'enfer. Mais il y avait cette étape clé qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aborder et que, bismillah, on le fait en ce moment. C'est la mort et la tombe, la situation du croyant et du mécréant dans fil qabri, dans la tombe. Nous voyons aujourd'hui une citation de Abu Darda, radiallahu anhu, sahaba bien connu. Et c'est une citation qui nous permet de comprendre et de décrypter l'état d'esprit des sahaba. Qu'est-ce que nous connaissons des sahaba? En général, nous connaissons une partie de leur biographie à travers l'étude de la sira. Et très souvent, notre approche de la sira se base sur les différentes batailles qui ont eu lieu et la bravoure de certains. Mais la vie des sahaba ne se limitait pas à ça, bien sûr. Et quand on parle de bon comportement de akhlaq, en général, on s'identifie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'objectif. On connaît, on a appris les différentes sunnahs de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa manière de se comporter, de parler, d'agir, mais nous ne connaissons en fait très peu du comportement, du noble comportement des sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in, et c'est un sujet qu'il est bien de développer, l'étude d'une biographie complète de certains compagnons. Là, nous avons la chance de l'ouvrage de As-Suyuti, d'avoir en plus de l'étude des versets du Coran et des hadiths et des paroles du prophète alayhi salat wa salam, nous avons également les citations de sahaba, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces différentes citations nous permettent, comme on a dit, de comprendre quel était l'état d'esprit des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, et de comprendre quelle était leur conception de la vie et de la mort. Donc Abu Darda radiyallahu anhu قال احب الفقر تواضعا لربي, j'aime la pauvreté pour faire preuve d'encore plus d'humilité envers mon Seigneur. Cette première partie de la citation nous interpelle et nous fait comprendre clairement la différence entre notre vision, notre approche du dunya et celle des sahab. Dans notre approche, nous aimons le dunya et nous voulons encore plus et gagner encore plus de dunya pour mieux en profiter et pour étendre nos terres, nos domaines, notre commerce, notre patrimoine et gagner plus pour vivre mieux, avoir plus de confort. C'est le petit schéma totalement erroné que nous sommes faits. Le Sahaba le disait très clairement. Ils préféraient la pauvreté à la richesse. Ils aimaient la pauvreté pour se soumettre encore plus à Allah Azza wa Jal en acceptant la décision de leur Seigneur. C'est le passage qui nous intéresse. Abu Darda radiallahu anhu dit : j'aime la mort. La mort, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça me plaît et ça me donne envie de rencontrer enfin, de retrouver enfin Rabbi, mon pourvoyeur, mon Seigneur. Et nous, très souvent, quand on parle de la mort, on a peur. C'est la pire des choses pour nous que de savoir qu'il nous reste 2 mois, 3 mois, 6 mois à vivre, parce que pour nous, quitter ce monde, ça s'apparente à la fin de tout espoir, de tous nos rêves. Alors que bien au contraire, l'espoir et le rêve du croyant démarrent à partir du moment où il quitte cette terre d'épreuves et de difficultés. Et nous voyons comment les Sahaba, eux, concevaient la mort. J'aime la mort parce que c'est mon rendez-vous et j'aime ce rendez-vous avec mon Seigneur. Et j'apprécie le fait d'être malade parce que je sais qu'à travers la maladie, Allah Azza wa Jal va me purifier de mes péchés. Là aussi, c'est un état d'esprit qui nous interpelle. Les sahaba et Abu Darda, radhiyallahu anhu particulièrement, comprenaient le sens de la maladie et des épreuves d'une façon générale. Et lorsqu'ils étaient éprouvés par Allah Azza wa Jal, ils acceptaient et ils remerciaient Allah pour l'épreuve parce qu'ils savaient qu'à travers l'épreuve, Allah augmente le degré, pardonne leurs péchés et leur accorde des rétributions, des récompenses qu'ils verront dans l'au-delà. Il me semble que cette citation-là, on l'avait clôturée. Les interventions avant le confinement, c'était au mois de mars 2020. On continue aujourd'hui avec une autre citation de Abu Darda, toujours, radiallahu anhu, nous explique que le plus beau cadeau qu'une personne puisse le faire, c'est de lui transmettre les salams. Et le salam, c'est une doua, une invocation que la paix d'Allah soit sur toi. Donc, à leur niveau, les sahaba, pour eux, le cadeau, ce n'est pas de dirham, des dinars ou des biens. Mais leur faire salam, le salam, c'est un doua. Et leur accorder cette invocation, c'est pour Abu Darda un des plus beaux cadeaux qu'une personne puisse le faire. Et pour lui, wala balaghani anhu khayrun a'jabu ilayya min mawti. Et la plus bonne nouvelle qu'il puisse entendre à propos d'un croyant pieux, c'est de savoir qu'il est mort. Alors, je préfère expliquer tout de suite, ce n'est pas qu'il se réjouissait de la mort de proche, aucunement. Mais ça traduit leur conception de la mort. Lorsqu'Abu Darda savait qu'un croyant, et bien sûr on précise d'un croyant pieux, lorsqu'il entend qu'un croyant pieux est retourné vers Allah, mais pour lui c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Parce que cette personne se libère des chaînes de ce dunya, comme on l'a dit, d'un monde de difficultés et d'épreuves, pour retourner vers le Seigneur qui va maintenant le rétribuer pour une vie passée dans l'obéissance et dans l'éloignement des péchés. Et cette mort sera également synonyme de la fin de toutes les épreuves. Alors bien sûr, la personne qui meurt dans le mauvais chemin, la mort est bien au contraire une situation complexe avec les châtiments de la tombe et ainsi de suite, qu'Allah nous protège. Mais quand il s'agit du croyant qui va passer les étapes, les questions des anges, ainsi de suite, avec succès, ben c'est le début du bonheur. Ce n'est que du bonheur qui va s'installer, qui va prendre place dans cette vie, j'ai envie de dire, cette vie d'outre-tombe. Ce n'est que du bonheur qui va prendre place parce que le mu'min commence à profiter des bienfaits du paradis, à avoir sa place dans le Jannah, à avoir une fenêtre, une lucarne qui est ouverte de son paradis vers sa tombe et ressentir cette fraîcheur et sentir le parfum du paradis. Donc c'est pour ça qu'Abu Darda radiallahu anhu disait que lorsqu'il entendait qu'un croyant, et je précise un croyant pieux, c'est-à-dire un croyant du niveau des Sahaba, hein, comme Abu Darda qui parle, un croyant de leur niveau, donc qui était mort, ben, pour lui c'était la plus belle chose qui pouvait arriver à cette personne parce que il s'est enfin libéré, comme on dit, des chaînes de ce dunya pour retrouver Allah Azza wa Jal. Imam Ahmad ibn Hanbal, donc ces deux citations de Abu Darda nous fait comprendre quel était, je le répète, l'état d'esprit des Sahaba, leur conception de la vie, leur conception des bienfaits de ce monde, leur approche de la notion d'épreuve et de bienfait, et également comment est-ce qu'ils attendaient la mort pour revenir et retourner vers Allah Azza wa Jal. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils n'attendaient, ils ne faisaient que ça, attendre la mort. Là, wallah, ils passaient leur vie à profiter spirituellement de chaque instant et faire en sorte que la mort arrive à un moment où ils ont tout donné pour Allah Azza wa Jal. C'était leur état d'esprit, à nous de nous en inspirer. Imam Ahmad ibn Hanbal, dans son Sunan, rapporte que l'ange de la mort était venu voir Ibrahim alayhi salam avant donc de reprendre son âme. Et il a informé Ibrahim alayhi salam qu'Allah l'envoie pour reprendre son âme. Et là, Ibrahim alayhi salam avait interpellé l'ange de la mort, dit « Oh, ange de la mort, hal ra'ita khalilan yaqbidu ruh khalili » Est-il possible qu'un bien-aimé, on sait que le surnom de Ibrahim alayhi salam c'était Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Et donc il a donc dit à l'ange de la mort, est-il possible qu'un ami proche, un ami intime, fasse reprendre l'âme de son ami proche, de son ami intime? Et l'ange de la mort était perturbé par cette question et il est remonté aux cieux, rencontrer Allah Azza wa Jal et l'exposer la réponse d'Ibrahim alayhi salam. فَقَالَ لَهُ عَزَّ وَجَلْ هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يَكْرَهُ لِقَاءَ خَلِيلِهِ. Il dit que rapporte à Ibrahim alayhi salam cette réponse, vois-tu, est-il possible qu'un bien-aimé refuse, qu'un ami intime, qu'un bien-aimé refuse de rencontrer son bien-aimé, son ami intime, son khalil. Et là, Ibrahim alayhi salam a compris le message d'Allah. Il dit à l'ange de la mort, faqbid ruhi as-sa'a. Et il a dit à l'ange de la mort, maintenant tu peux reprendre mon âme, maintenant, immédiatement. Donc notre Seigneur révèle à Ibrahim alayhi salam que la mort, c'est lorsque le bien-aimé rencontre son bien-aimé. C'est le moment des retrouvailles, d'une certaine façon, de guillemets, avec les bienfaits qu'Allah va nous accorder et revenir vers celui qui nous a créé et qui nous a promis, وَاتَّقُوا يَوْمًا, qui nous a annoncé, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, craignez ce jour, vous serez ramenés vers lui. Mais lorsqu'il s'agit d'un croyant pieux qui quitte ce dunya, revenir vers Allah, retourner vers lui, c'est une ni'ma, c'est un bienfait et c'est un cadeau, une délivrance de la part d'Allah Azza wa Jal. D'où la réaction d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah lui a dit que la mort, c'est lorsque le bien-aimé retrouve son bien-aimé. On a une citation de Sahel ibn Abdillah, rahimahullah, et une citation qui est très intéressante, qui nous permet de comprendre que la personne qui souhaite mourir, on parle à notre époque, quand une personne vous dit que voilà, la mort m'est préférable que telle situation, ou suite à des difficultés, la personne dit j'attends impatiemment qu'Allah me reprenne et que je meure enfin. Il y a des fois où dans des situations de désespoir, une personne qui doit être hospitalisée ou se faire opérer dit que voilà, j'espère que je finis sur la table d'opération et qu'il m'arrive quelque chose pendant l'intervention. Ce sont des paroles qui sont totalement insensées et on a eu l'occasion de développer cette thématique il y a quelques mois. Et donc, on voit la citation de Sahl ibn Abdillah, rahimahullah, حيث يقول لا يتمنى الموت إلا ثلاثة. Il y a trois catégories de personnes uniquement qui souhaitent la mort. Il n'y a que trois catégories de personnes qui souhaitent la mort. Parce que dans la nature humaine, l'homme ne veut pas mourir. L'homme a peur de la mort, de cet inconnu, de cette étape de passage de ce monde vers l'au-delà. Et l'être humain a peur de mourir, à l'exception de trois catégories de personnes qui, eux, souhaitent et veulent mourir. Et Yaqul, Rajulun, Jahilun, Bima Ba'd al-Mawt. Le premier cas de figure, c'est une personne qui est totalement ignorante. Un Jahil, un ignorant. Quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui l'attend après la mort. Ainsi, la personne peut penser que la situation qu'elle est en train de vivre, les difficultés, la maladie, la pauvreté ou les injustices, ben, il peut penser que à partir du moment où je vais mourir, ben, ces difficultés vont prendre fin. Mais cette personne ne réalise pas que, quelle que soit la complexité hein, de ses problèmes, la quantité d'épreuves qu'il est en train de vivre ou la profondeur de ses de son chagrin, cela reste incomparable avec les châtiments de la tombe et les difficultés après la mort. Donc il l'a qualifié d'un djahil, comme étant djahil, un ignorant, parce que cette personne n'imagine même pas quelles sont les étapes qui l'attendent après la mort, qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à gérer que les pires difficultés de ce monde. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, « Aou rajulun » ça peut être une personne qui fuit le destin d'Allah. C'est le cas de cette personne qui vit des difficultés, des épreuves et qui souhaiterait que ces épreuves prennent fin par la mort. Là aussi, c'est une réaction irresponsable parce que ça ressort d'un cœur qui n'est pas convaincu et qui n'a pas compris le sens des épreuves. Quand une personne voit la mort comme un échappatoire aux difficultés de sa vie, c'est que la personne n'a pas intégré que chaque instant de difficulté et d'épreuve dans sa vie lui permet de construire son akhirah et de renforcer son lien avec Allah Azza wa Jal. Donc celui qui attend la mort pour mettre fin à ses épreuves, c'est une personne qui a une réaction qui est on va dire inconsciente, parce que la personne ne réalise pas réellement la portée des épreuves et ce qui peut l'attendre aussi après la mort. Et la troisième catégorie, et ça nous intéresse, ou mushtaqun muhibbun li liqa'illahi, ou alors c'est une personne qui attend impatiemment de rencontrer son Seigneur, qui a envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, parce que c'est un croyant qui avait vécu, qui a passé toute sa vie dans l'obéissance. C'est cette personne âgée qui, mashallah, a vu sa barbe blanchir dans l'obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et qui a consacré toute sa vie à l'adoration, aux bonnes œuvres, aux bonnes actions, tout en restant éloigné des péchés, et qui a eu le meilleur des comportements envers son prochain, et que cette personne, maintenant, arrivée à un certain âge, 75, 80, 90 ans, Allah seul le sait, la personne attend patiemment quand est-ce qu'il retournera auprès de son Seigneur pour trouver la rétribution, la récompense pour sa vie de ta'a et sa vie d'obéissance. C'est vraiment une situation merveilleuse et magnifique que d'atteindre un âge avancé et être conscient que toute notre vie, depuis notre jeunesse, on a accompli nos 5 prières, notre Ramadan tous les ans, lecture du Coran, assiduité de l'aumône, et on a eu un comportement exemplaire envers nos proches, envers la famille, envers nos voisins, envers les gens que personne n'a quoi que ce soit nous reprocher, et que nous ne devons d'argent à personne, et que nous n'avons aucune salat à rattraper ou aucun manquement apparent dans la religion, et que cette personne atteint cet âge avancé, je le répète, avec ses bonnes habitudes et cette spiritualité très forte depuis son jeune âge, c'est une vie qui est réussie, c'est une vie qui a été consacrée à Allah Azza wa Jal, et cela concrétise l'ordre divin, l'information de notre Seigneur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, qu'Allah a créé les djinns et les êtres humains uniquement, Allah les a créés uniquement pour faire son adoration. Donc la personne qui atteint cet âge et qui attend patiemment le retour vers Allah, on peut dire que c'est une situation qui est enviable et qu'on aimerait tous arriver à un âge où on attend ce moment avec conviction qu'on a passé une vie dans l'obéissance de notre Seigneur. Allahumma ja'alna minhum. On continue, nous sommes en train de passer en revue des versets du Coran, des hadiths et maintenant des citations de pieux prédécesseurs. Nous avons Ahmed Ibn Abi al-Hawari rahimahullah, il dit qu'il a entendu Abu Abdullah An-Nabaji, Abu Abdullah An-Nabaji rahimahullah, dire لو خيرت, si on me donnait le choix entre le dunya, entre le fait de vivre longtemps sur cette terre, et qu'on m'accordait durant cette longue vie l'ensemble des bienfaits possibles pour un être humain, tous les bienfaits possibles qu'Allah a créés pour l'homme, et que ce soit des bienfaits halal, bien sûr, licites. Si on me propose donc une vie, une longue vie de ce monde avec tous les bienfaits licites de ce monde à ma disposition. Et le bienfait, et c'est magnifique ce qu'il dit, la us'alu anha yawm al-qiyam, et des bienfaits à propos desquels je n'aurai pas à rendre des comptes jour de qiyam. Là, on voit même que dans leur supposition, dans leur phrase hypothétique, ils laissent quand même paraître leur intelligence spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle? Cet homme, ce pieux prédécesseur qui rappelle qu'il aurait, que entre le fait d'avoir les biens de ce monde et biens de ce monde pour lesquels il n'aura pas de compte à rendre, parce qu'ils avaient compris que la moindre chose qui sera en ta possession sera source d'interrogation et de questionnement le jour de Dieu, le jour de Qiyam. Donc, il parle de bienfaits abondants, le maximum de bienfaits, bienfaits pour lesquels il n'aurait rien à répondre le jour de Qiyam. Si on lui proposait donc cette situation, وَبَيْنَ أَن تَخْرُجَ نَفْسِي أَسَّاعَ لَخْتَرْتُ أَن تَخْرُجَ نَفْسِي أَسَّاعَ. Soit cette situation, ou alors qu'on me propose que ton âme peut quitter ton corps maintenant, à l'instant T. Ben, j'aurais préféré la deuxième proposition, que mon âme quitte mon corps maintenant, à cet instant. Et il dit en conclusion, أَمَا تُحِبُّ أَن تَلْقَى مَن تُطِيعَ. Ne souhaites-tu pas réellement rencontrer celui que tu obéis? Donc pour ce pieux prédécesseur, entre les biens de ce monde en abondance et biens pour lesquels il n'aurait rien à répondre au jour de Qiyama, et la possibilité de quitter ce dunya immédiatement maintenant pour retourner vers Allah, ses pieux prédécesseurs préféraient le retour vers Allah parce qu'ils savaient que le retour vers Allah Azza wa Jal, c'est la rencontre entre le abid et le ma'boud, entre l'adorateur et celui qu'il a adoré durant toute sa vie. De sa citation de conclusion, ne souhaites-tu pas réellement ou dans le fond rencontrer celui que tu as obéi durant toute ta vie? Ses pieux prédécesseurs, ils avaient la compréhension des choses. Allah leur a accordé cette compréhension qui leur permettait de faire le lien entre ce dunya et le akhirah. On continue les citations, une dernière. Ah, celle de Masrouq, Yaqoul, je n'ai jamais été aussi jaloux, mais jaloux dans le sens d'une jalousie qui n'est pas nuisible à son prochain. Je n'ai jamais été aussi envieux, on va utiliser un autre terme. Je n'ai jamais été aussi envieux d'une personne, d'un croyant, qui est déjà dans son linceul, dans le kafan, et qui attend d'être enterré, mais قد امن من عذاب الله واستراح من اذى الدنيا. Dit que je n'ai jamais été aussi envieux d'une telle personne. Alors on peut se dire, si on nous posait la question à nous, ben la situation de quelle personne te ferait plus envie? Bon, là on aurait eu des réponses diverses, entre celui qui possède telle chose, qui a telle chose, qui a une famille avec tant d'enfants, avec voilà un cadre de vie idéal, tralala, tralala, et ainsi de suite, une santé de fer avec tous les bienfaits, qui voyage et tout. Donc on aurait cité, nous, certainement, tous les bienfaits de ce monde qui nous plaît. Masrouq, rahimahullah, pour lui, l'homme qui l'attire le plus, la situation qui l'attire le plus, c'est cet homme, ce croyant, qui est déjà emballé dans son linceul, dans ce tissu blanc, le kafan, comme on dit, et qui attend d'être enterré. Et c'était un homme pieux, à condition bien sûr que c'était un homme pieux qui a obéi à Allah durant toute sa vie, et que à cet instant cette personne n'a plus rien à craindre de ce dunya. وَاسْتَرَاحَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا. Il n'aura plus jamais à subir les difficultés de ce monde, mais que en même temps c'est quelqu'un qui est à l'abri du châtiment d'Allah, qui sait que il n'aura aucune punition parce que la personne a déjà reçu la bonne nouvelle des anges au moment de mourir, comme on avait eu l'occasion d'expliquer que les anges annoncent à la personne si Allah était satisfait. Donc pour lui, la situation la plus envieuse, c'est ce croyant qui attend d'être enterré, et il sait pertinemment que lorsqu'on le met dans la tombe, ce seront des étapes qu'il va franchir avec une grande facilité, parce qu'il a déjà reçu la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal, et il va enfin commencer à profiter des premiers bienfaits abadi, des premiers bienfaits éternels, les bienfaits de l'au-delà qui interviennent dans fil qabri, dans la tombe. On va s'arrêter à la pointe aujourd'hui, inshallah, qu'Allah Rabbul Izzah nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, d'en tirer les leçons, et qu'Allah nous permette de comprendre et de voir la vie de ce dunya avec les yeux et le cœur du croyant, et de comprendre et de réaliser que notre retour auprès d'Allah Azzawajal est certes une fatalité, mais ce sera le moment de consécration, de bonheur pour nous, à condition que nous passions notre vie dans l'obéissance. Wa tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.